Les nuits de France Culture.
Il existe au Mexique une plante, un cactus pour être plus précis, qui fascine les Occidentaux depuis des siècles. Le peyote, doté de propriétés hallucinogènes, est utilisé par plusieurs peuples autochtones, comme les Huichols ou les Tarahumara, dans leurs cérémonies religieuses. Plante sacrée par excellence, il est considéré comme une source de connaissance, une voie de communication avec le monde des esprits. Dans le sillage d'Antonin Artaud, d'innombrables artistes, poètes et écrivains se sont rendus au Mexique précisément pour faire l'expérience du peyote. Des voyages souvent éprouvants, tant physiquement que psychologiquement. Ce cactus mexicain, le peyote, était au cœur de cette émission, le sixième volet d'une série sur les plantes divinatoires et les champignons hallucinogènes par René de Saulier avec l'écrivain Max Aube. C'était le 30 novembre 1963 sur l'antenne de la RTF.
La radiodiffusion télévision française présente La liberté coupable. La liberté coupable, troisième série.
Santo, 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 Santo.
Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composée par René de Saulier, avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, le peyote, avec Max Aube. Texte lu par Roger Blin. Réalisation Pierre Barbier.
En ce qui concerne les plantes divinatoires, et particulièrement dans l'optique, disons, mexicaine, il faut distinguer entre celles qui appartiennent donc à deux espèces, la première l'espèce des cactées, la seconde des champignons. Pour l'instant, ce sont les cactées qui vont nous préoccuper. Et si l'on se réfère à une thèse ancienne d'un, disons, savant pharmacien, Rouillé, qui a paru vers 1926 et qui concerne le peyote, on constate que le problème des plantes divinatoires fut alors posé en termes extrêmement précis. Mais ces termes, qui impliquent des connaissances botaniques, impliquent aussi des connaissances d'un autre ordre, on dirait maintenant métapsychique, ou on parlerait maintenant de télépathie, et l'une des propriétés curieuses du peyote est développer chez le patient un état de télépathie. Or, il nous faut définir certains mots curieux. D'abord, le docteur Osti, il y a longtemps, avait donné telle définition. « La vérité, écrivait-il, est qu'un état fonctionnel spécial du corps conditionne la métagnomie. » J'arrête ici la citation, afin d'attirer l'attention de nos auditeurs sur ce mot qui paraît barbare, métagnomie. En fait, il gouverne presque l'ensemble des plantes hallucinatoires et des plantes divinatoires. Vous connaissez le mot métaphysique. Dans le mot métagnomie, on retrouve en tout cas un radical qui est gnose, connaissance, gnosis. Et la métagnomie est la propriété de connaître par des voies autres que les voies sensorielles ordinaires. Il ne s'agit donc pas, lorsqu'il est question du peyote, d'une drogue. Il ne s'agit pas non plus d'ingurgiter un produit qui va déclencher tout un mécanisme d'image, mais en fait de parvenir à un certain état dans lequel interviendra cette connaissance. À partir de là, il est évident que, et je cite de nouveau le docteur Osti, nous ignorons en quoi il consiste, ce corps, n'est-ce pas, et il n'est qu'une manière utile de le savoir, l'observation et l'expérimentation physiologique. Cela étant écrit il y a environ 40 ans.
Alors je pense qu'il y a actuellement des données plus modernes, plus neuves. Il y a eu des recherches sur ce plan.
Non seulement il y a eu des recherches, mais il y a eu des explorations. Et si l'on en reste à l'avant-guerre, c'est-à-dire à avant 39, si l'on en reste à tel voyage d'Antonin Artaud au Mexique, il n'y a pas de doute que, en tout cas dans une perspective occidentale, l'un des grands mythes pour les occidentaux attirés par le Mexique, l'un des grands mythes était celui du Peyalt. Vous entendrez un texte émanant d'une série de transcriptions. Ces transcriptions sont l'œuvre d'un écrivain qui s'appelle De Felice, qui fut passionné par les poisons et les plantes hallucinogènes, hallucinatoires. Il s'agit des fêtes du Peyalt. Mais il nous faut en revenir, encore une fois, à l'essentiel du problème, parce que lorsque l'on entreprend l'étude de ce que l'on peut appeler la botanique, la pharmacodynamie, c'est-à-dire d'un ensemble de plantes, et ces plantes sont extrêmement nombreuses à la surface du monde et dans l'histoire du monde, lorsque l'on entreprend cette étude, l'on est admis à constater que chaque fois, il y a eu des fonctions, que nous appelons maintenant rituelles, que nous appelons sacrées, et on s'aperçoit qu'on peut diviser cette sorte de hiéro-botanique, hiéro voulant dire ce qui est sacralisé, donc on peut diviser cette sorte de botanique non pas sacrée ni sacralisée, mais de botanique mise au service d'un ensemble de mystères, en plusieurs parties. L'une comporte les plantes symboliques, les plantes mystiques si vous voulez, et l'autre catégorie est très nettement formée par les plantes divinatoires, mais il y a très peu de temps que l'on s'est rendu compte de l'importance du problème.
Les fêtes du peyotl. Les Indiens considèrent le peyotl comme la plante de vie, comme l'origine et la condition première de toute vie, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi, lorsqu'ils consomment du peyotl, ils ne s'imprègnent pas seulement eux-mêmes d'une vitalité supérieure, mais ils aident encore cette vitalité à se manifester dans tous les domaines où il est indispensable qu'elle agisse. C'est pourquoi la quête et la cueillette du peyotl sont accompagnés de certains rites qui sont en réalité des charmes magiques, destinés à rendre la chasse productive et à faire tomber la pluie. C'est pourquoi, enfin, le groupe tout entier bénéficie de l'ivresse de ses membres et y trouve comme un regain de l'existence qui lui est propre. L'assimilation entre le toxique et la vie est ici aussi complète que possible. Le poison mystique et la vie forment un tout indissoluble. Lors des fêtes du Peyotl, les Huichol se couvrent le visage de peintures votives qui sont des représentations symboliques de certaines divinités. La couleur jaune qu'ils emploient est celle du dieu du feu. Ils pénètrent dans le temple et se réunissent autour du foyer principal. Les femmes et les autres habitants du village, qui n'ont pas pris part au rite de cueillette de la plante sacrée, se groupent près d'un second feu. Pendant toute la nuit, les Huichol chantent les louanges de Bisaïeul queue de daim et de tous les dieux qui entreprirent jadis la cueillette de la plante sacrée. Lors d'une seconde fête, on procède à l'allumage du foyer central après avoir déposé sur une bûche de bois vert, qui est l'oreiller de l'aïeul le feu, des fagots de branchages. Trois feux identiques sont allumés au dehors. Hommes et femmes ont décoré leur tête ou leur chapeau d'une profusion de plumes et se tiennent dans la cour, attendant le signal de l'officiant qui décide de l'instant où commenceront les danses sacrées. Au signal, dès que le chant de l'officiant s'élève, les Huichol se mettent à danser en faisant des sauts, en imprimant à leur corps divers mouvements et en décrivant des cercles qui se transforment en ellipses afin de se rapprocher des animaux protecteurs, écureuils gris, putois rayés, dressés sur deux poteaux. Les Huichol portent, appuyé sur l'épaule, un bâton rituel qui représente un serpent, et certains d'entre eux font tournoyer en l'air un morceau de bois orné de queues de daim. Leurs évolutions, dirigées par deux couples, se poursuivent rapidement au milieu de nuages de poussière, dans un sens contraire à celui de la marche du soleil. De temps à autre, la danse s'interrompt, mais c'est toujours l'officiant ou ses acolytes qui fixent par leur chant le moment des reprises. Bientôt, la fête atteint son paroxysme. Le moment est venu où, au milieu de grandes réjouissances, tous les interdits vont être levés.
À propos des plantes, on constate leur emploi, comme nous le disions tout à l'heure, dans tous les pays, à toutes les époques, sous toutes les latitudes. Et cela, aussi loin, le docteur Rouillet, qui s'était attaché à l'étude de ces plantes, était formel, et cela, aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire de n'importe quel peuple. Et quand le savant Gordon Vasson fut amené lors d'un voyage en Urse en 57 à rencontrer en Sibérie des chamans, il a perçu alors des problèmes appartenant typiquement au chamanisme, mais qui étaient ignorés des historiens actuels du chamanisme. Donc, plantes et légendes vont coïncider, et ce qui nous intéresse, c'est de surprendre l'ensemble, non pas des légendes fabuleuses des civilisations disparues, mais de percevoir la relation entre plantes et fêtes. Or, il s'agit d'une fête des couleurs, par l'intermédiaire d'un produit, qui pour l'instant est le peyote. Le peyote étant un cactus court, ou une série de cactées bicéphales poussant en montagne, cette plante fait l'objet d'un rite de cueillette. Ensuite, elle est coupée en disques, et au bout de 3 à 4 semaines, ces disques seront consommés par l'ensemble d'une population appelée tribu. Tout commence à partir de là, mais il ne s'agit pas d'obtenir un état d'ivresse ou d'entrer dans un état d'hyper-excitation qui va régner à l'intérieur du groupe tribal. Le but du chaman qui va être amené à manier cette plante près des êtres de sa communauté, le but de l'entreprise est clair. D'abord, ces plantes, souvent nommées « herbes aux prophètes », sont presque toutes d'origine américaine et sont la plupart du temps localisées dans le Mexique actuel, soit au nord de Oaxaca en ce qui concerne les champignons, soit dans la partie sud des États-Unis en ce qui concerne le peyote. De toute façon, chaque fois, il s'agit d'une plante qui pousse en altitude entre 2000 et 2500 mètres. L'une des vertus du peyote est très claire, c'est une vertu métagnomique. À partir de là, il est évident que l'intérêt des pharmaciens et des chimistes d'il y a 40 ans était très grand en ce qui concerne l'utilité que ces plantes, dont le peyote, pourraient avoir en métapsychique expérimentale. Et à partir de là, on a été amené, contrairement à ce qu'avaient pu écrire les romantiques, Baudelaire, Gautier ou Quincet, à considérer cette plante non plus depuis les vertus de l'ivresse, mais depuis des vertus tout à fait autres. Ces plantes vont, par le jeu des images qui interviennent à l'intérieur d'un être, révéler à la fois son passé, son présent et, dit-on, son avenir.
En balancement de cette ivresse que vous avez tout à l'heure signalée et qui seule avait retenu l'attention des écrivains romantiques, il doit y avoir autre chose recherchée par l'absorption du peyote.
En effet, ce qui a frappé les savants maintenant et tout récemment, c'est le développement d'une faculté sous l'ingestion d'un breuvage ou d'un mets. Et indéniablement, le peyote, c'est là où nous retrouvons le rite ancien, développe ou multiplie les facultés télépathiques de l'être qui absorbe du peyote. La télépathie existe en effet chez les animaux, chez certains papillons par exemple. Il suffit d'emprisonner une femelle à l'époque des amours et de la transporter à 30 ou à 50 km du lieu habituel où elle évolue. Et au bout d'un temps record, on trouve autour de la cage qui contient la femelle une vingtaine de papillons qui ont donc été appelés comme au secours par l'être détenu ainsi. Ce qui avait attiré Gordon Vasson à propos des expériences mexicaines était un fait certain. Sans nouvelles de son fils, et montrant une carte du monde à l'un des chamans, il souhaitait savoir à quel endroit du monde se trouvait actuellement son fils. L'inquiétude du père était due au fait que le garçon devait partir en Corée, Et il est évident que pour un Indien, la Corée est un pays aussi difficilement localisable que Paris. Et au bout d'un certain temps, la main du chaman ayant touché un certain nombre de réseaux, de grains, de maïs, de plumes, etc., la main est allée non pas vers la Corée, mais vers Washington. À partir de ce moment, la faculté de clairvoyance du chaman ne pouvait pas être objectivement démontrée, mais de toute façon, le savant était rassuré, il avait un peu comme la certitude que l'être se trouvait de toute façon dans l'endroit où il l'avait laissé. Or, l'une des vertus de ces plantes, dont le peyote, est donc de multiplier les facultés télépathiques. D'autre part, sous l'effet de cette plante, se développe une faculté, que nous avons tout à l'heure qualifiée de métagnomique. Cette faculté intervient dans un cerveau qui n'avait jamais montré auparavant une sorte de prédisposition à la lecture de l'avenir ou même du présent ou du passé. Et indéniablement, ces images subliment. Des champignons hallucinogènes du Mexique, on a dit, ils sont la chair de Dieu. Du peyote, on a pu donner telle définition. La plante qui rend les yeux émerveillés, la plante qui fait voir. Et Antonin Artaud.
C'est au Mexique. C'est au Mexique, dans la haute montagne, vers août septembre 1936, que j'ai commencé à m'y retrouver tout à fait. J'étais monté chez les Tarahumara avec un signe, une espèce de petite épée de Tolède attachée de trois hameçons, qui m'avait été indiquée par un nègre sorcier de la Havane. Avec ça, me dit-il, vous pourrez entrer. Mais je n'avais pas désiré entrer. Or, qui va pour voir quelque chose, c'est pour entrer dans un monde donné, mais jusque-là clos, insoupçonné. Ce n'est pas l'idée que je me fais des choses. Pour moi, il ne s'agit pas d'entrer, mais de sortir des choses. Or, qui se détache, c'est aussi pour entrer. Sortir peut-être, mais dans quelque chose. Quitter l'ici pour fondre ailleurs. Fondre et se libérer hors de l'ailleurs. Ne pas fondre, mais se libérer dans nulle part. Ne plus savoir. Renoncer à avoir existé. Alors ne plus souffrir jamais. Les alternatives sont nombreuses, et ce n'en sont plus, chaque religion et individu à la sienne. Or, tout cela est idiot. Je n'étais pas cet apprenti yogi qui cherche à sortir pour entrer ailleurs dans le contenant de quelque chose, être tiré de la douleur du problème, fondre et ne plus sortir jamais. Je n'allais pas au peyote l'en curieux, mais au contraire, en désespéré, qui veut enlever de soi encore un dernier lambeau d'espérance, détacher la dernière petite fibre rouge de l'espérance spirituelle de la chair. Le peyote, je l'ai déjà dit, est une râpe, un morceau de bois tailladé, incrusté de tous les sarclages, de toutes les encoches de mémoire qui creusèrent son corps endurci. Qui veut y trouver une notion, y perd un peu plus qu'un membre d'esprit, un peu plus qu'un squelette en vie. Mais ce n'était pas ce que je cherchais. Car contrairement à ce qu'on pouvait croire, je n'ai jamais cherché le supranormal. Or, je n'allais pas au peyote pour entrer, mais pour sortir.
Après ce texte d'Antonin Artaud, reste deux points à préciser. Tout d'abord, celui des images, puis celui de l'initiation.
Eh bien, les images que l'on reçoit depuis telle ou telle plante, encore une fois, je refuse l'emploi du mot « drogue », les images que l'on reçoit sont certainement très différentes, et Henri Michaud, par exemple, s'est livré à un comparatisme qui n'est pas tout à fait concluant dans la mesure où l'on consomme le produit ou bien dans la mesure où l'on consomme un substitut, c'est-à-dire un produit chimique. Alors, dans l'histoire des textes par rapport aux plantes divinatoires au XIXe et au XXe siècle, il y a eu les romantiques et maintenant, près de nous, Antonin Artaud, Henri Michaud et cette équipe de savants groupée autour de Gordon Wasson et du professeur M. Mais les images ne peuvent intervenir pleinement que dans la mesure où la plante en question est prise sur place dans les conditions voulues et en présence du chaman. Le chaman n'est plus du tout maintenant un être apparenté au sorcier. Les historiens des religions, dans la perspective d'une phénoménologie, authentifient le chaman comme l'être qui sait, et le chaman est très souvent un merveilleux médecin, le savant en botanique ou en géologie. C'est le chaman qui connaît le secret des herbes, connaît l'état de chacun, peut intervenir dans la mesure où tel ou tel se trouverait en danger. La conclusion me semble très nette en ce qui concerne ces plantes divinatoires que nous redécouvrons avec 20 ou 30 siècles de retard. D'une part, ivresse des images, d'autre part, développement de la faculté de savoir et sentiment de cette sorte d'ivresse qui intègre au monde, au cosmos. On est en état de dédoublement, c'est-à-dire que l'on sait exactement où l'on est et que, dans le même temps, on se trouve dans un état qui vous lie à l'ensemble du monde. Le peyote est la plante qui favorise la faculté divinatoire. Le peyote n'est pas toxique dans la mesure où l'on respecte les règles dont nous parlions. Et le peyote a l'avantage de laisser le sujet éveillé, en état de conscience, intelligente, capable d'assister à la manifestation du phénomène cérébral qui, dans l'expérimentation psychophysiologique, a une importance considérable. En fait, il s'agit de plantes divinatoires qui peuvent nous mettre au courant des problèmes très complexes de ce que l'on nomme chimie du cerveau ou pharmacodynamie. Le peyote. Quel est le nom en botanique de cette plante, véritable plante au prophète, s'il en fut? Il s'agit de l'échinocactus williamsii, des botanistes, petit cactus sans épines qui croît seulement dans les régions désertiques du plateau central mexicain et au nord du pays, sur les bords du Rio Grande. Tantôt on récolte cette plante en son entier, en déterrant le cactus comme une mandragore, enfilé sur une corde, écrit Dr. Rouillet, desséché, sa tête verte, affaissée et rétractée, il ressemble à une informe racine. C'est ainsi qu'on le trouvait chez les herboristes indigènes du Mexique, mais il est évident que la plante a disparu des marchés. Elle fait l'objet d'une véritable chasse, d'une véritable quête. Et alors, durant les rites de la quête du peyote, on sectionne la tête globuleuse au ras du sol. Et cette tête, en se desséchant, s'aplatisse, donne des rondelles, des disques, appelés boutons de peyote ou encore boutons de mescal. Le peyote renferme plusieurs alcaloïdes auxquels est due son action cérébrale. Mais un seul d'entre eux, la fameuse mescaline, provoque le phénomène de vision colorée et de vibration colorée, c'est-à-dire d'image en mouvement. L'on assiste, après ingestion, à un défilé de visions qui vont depuis les dessins géométriques et kaléidoscopiques, mais chaque fois l'univers est comme décentré, chaque fois l'axe varie d'un point à l'autre et se déplace comme une étoile qui serait mue d'une vitesse tout à fait inhabituelle, et ces dessins géométriques et kaléidoscopiques préparent des scènes plus animées, plus merveilleuses, plus complexes, dont les coloris divers donnent l'impression de tapis, de mosaïque, mais il est évident que impression et comparaison n'éclairent en rien la nature des images. Il ne suffit pas de dire tapis, mosaïque, dentelle, broderie, pour que vraiment l'on puisse rappeler la nature de l'atlas. En fait, des scènes animées succèdent à toutes ces frises, et ces scènes animées, dans le cas du peyote, ne sont pas sans rappeler les fantastiques rêveries évoquées par Delacroix. Ces scènes surgissent, se déroulent, évoluent, disparaissent, sans que la volonté puisse influencer. Et il y a là comme une sorte de plante miracle comme une sorte de plante qui va permettre de voir, d'entendre et de comprendre.
L'importance de l'expérience d'Antonin Artaud pour les Mexicains, c'est Max Haub qui va maintenant nous la dire.
Les Mexicains n'aiment pas beaucoup parler d'eux-mêmes et ce sont, curieusement, surtout des étrangers qui l'ont fait. Entre autres, naturellement, Artaud. Justement, l'Université de Mexico vient de réunir en un volume tous les textes d'Artaud qui ont trait au Mexique. Cette expérience d'Artaud, comme celle d'autres écrivains qui sont arrivés à Mexico, est passionnante, pas tellement pour le Mexique comme pour les futurs voyageurs. Artaud décrit son impression, son Mexique, chaque voyageur a son Mexique particulier, et sûrement ses champignons particuliers.
Or, l'instrument clé dont a disposé Antonin Artaud a nom mot. Ce sont les mots qui font voir. Ce sont les mots qui permettent de prendre conscience, non tellement du milieu ambiant, mais de l'ensemble des formes. Antonin Artaud, extraordinaire expérimentateur et en pleine possession de toutes ses facultés physiques, cérébrales, a pu nous laisser non seulement un atlas des images, mais l'atlas poétique le plus bouleversant. C'est alors que intelligence, mémoire, raisonnement, sens critique sont intacts.
Allant chez les Indiens, je voulais me rencontrer avec le peyotle, avec un corps vierge de toute autre espèce d'attouchement, quitte à souffrir le vertige du vide interne, l'irrécouvrable manque à gagner de la vie. Arrivé au pied de la montagne, je jetai dans un torrent ma dernière dose d'héroïne, puis je montai sur un cheval. Au bout de 6 jours, mon corps n'était plus de chair, mais d'os, à souffler de la multitude de litres d'excréments liquides que j'avais perdus. Le départ de l'opium resserre les fibres, ouvre d'arides courants de vide sous la peau, et l'épiderme n'est plus qu'une énorme gencive irascible, une mâchoire comme à fleur de peau. Je connaissais tout cela, mais sur la montagne, cet état revêtit des proportions inaccoutumées. Ce n'était plus une douleur sourde, mais un envahissement moléculaire concret qui me traversait le corps de ces ondes froides, où, épouvantablement... Et puis, au bout de 3 à 4 jours, les douleurs de la désintoxication s'apaisent. Il y a en tout cas un palier qui ne franchit guère le 4e jour, après quoi le mal va en décroissant. Vers le 4e jour, au contraire, j'eus un spasme, une espèce d'épouvantable suffocation d'entrailles, comme si mon ventre était devenu le gouffre tourbillonnant de mon souffle, alors que tout le sommet de ma poitrine était froid et comme paralysé. Le 5e jour, je crus entrer en enfer. J'y voyais rouge, littéralement, et il me semble que la route brûlait. Et mon cheval lui-même avait comme peur d'avancer. J'avais vu sur les pentes de la montagne autour de moi des allées et venues bizarres d'Indiens qui apparaissaient puis disparaissaient. On en voyait 2, 3, mettre le nez au-dessus d'un rocher, puis s'éclipser bizarrement comme s'ils avaient voulu jouer à cache-cache avec moi. Je demandai à mon guide ce que cela signifiait. La première fois, il haussa les épaules, puis inclina la tête et ne dit mot. La deuxième fois, il pâlit et me regarda d'un air bizarre. La troisième fois, comme je l'interrogeais véhémentement, il se troubla, comme une espèce de grand enfant pris en faute. Un jour, j'aperçus un groupe d'Indiens couchés sur la terre dans les poses bizarres, la tête en bas et les pieds en haut, qui frappaient la terre de leurs mains et semblaient en prendre et en avaler des morceaux. Et j'entendais à 2 ou 3 kilomètres de distance leurs sauvages éructations. Vers le cinquième jour, il y eut comme des bruits de tam-tam. Mais non un tam-tam rassurant comme celui des expositions ou des foires, non un tam-tam utérin, perforant comme certains tam-tam arabes ou nègres, mais un tam-tam sec, aride, dont le son semblait se visser et se nouer dans l'air comme un serpent longtemps après la percussion du coup.
C'était La Liberté Coupable, troisième série. Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composées par René Dessolier avec le concours de Jacqueline Arpet. Aujourd'hui, Le Peyotle avec Max Haub. Texte lu par Roger Blin. Assistant René Albach. Réalisation Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la RTF le 30 novembre 1963. À suivre.